Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Je suis aujourd'hui à Lausanne, au bord du lac Léman, un endroit que j'affectionne tout particulièrement pour rencontrer Véronique Lugrin, fondatrice du Centre En Mouvement. Bonjour Véronique.
Salut David.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter qui tu es, comment tu as créé ce centre
Alors, je m'appelle Véronique, j'ai 36 ans. Je suis physiothérapeute du sport pour nos amis les Français. C'est kiné. Donc, mon parcours a été de faire un bachelor en physiothérapie, en kinésithérapie. Et par la suite, je me suis spécialisée dans un tout autre domaine qui s'appelle la neurologie. Donc, où je traitais des personnes qui avaient des problématiques de paraplégie, d'hémiplégie, donc qui étaient paralysées d'un côté ou complètement paralysées. Et puis, à la suite d'un accident de sport que j'ai eu, j'ai dû, en fait, réorienter ma carrière. Et du coup, j'ai décidé de réorienter ma carrière sur l'aspect de l'éducation et du sport. Et du coup, je me suis fait un perfectionnement en entraînement et performance pour l'aspect préparation physique. Et autour de ça, j'ai commencé à développer ma clinique sur les artistes et les sprinteurs, où j'ai publié un petit article scientifique. Et du coup, j'ai trouvé dommage que autour du sportif, il n'y avait pas la même vision qu'en neurologie, où en neurologie, la vision, elle est très holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne et on va réunir le médecin, la famille, le physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le psychologue, et on va demander au patient quel est son souhait. Et en fait, on va tous se réunir autour de ce souhait, cet objectif, pour pouvoir rendre le patient autonome. Et dans le sport, malheureusement, je trouvais qu'il y avait un peu plus d'ego et un peu beaucoup moins de communication, c'est-à-dire que souvent l'athlète, il est amené à devoir courir chez son ostéo, chez son kiné, chez son médecin, puis lui, de faire l'intermède entre les différents intervenants. Et je trouve que ça, c'est un temps qui est perdu, qui est énorme, et une énergie énorme pour l'athlète. Et du coup, j'ai décidé de fonder un centre qui reprend la même vision holistique et durable que le système de la neurologie, pour en faire un centre dédié à l'activité physique et aux performances artistiques, de rejoindre les artistes et les athlètes avec une équipe interdisciplinaire. Donc plusieurs thérapeutes, plusieurs professionnels qui représentent l'aspect mental, l'aspect nutritionnel, l'aspect physique, l'aspect plus global récupération par le massage, et d'en faire une équipe pour les sportifs et pour les artistes.
Et donc, tu as tout un tas de compétences que tu as réunies autour de toi, autour du sportif. Quelqu'un frappe à ta porte. Comment est-ce que tu le rediriges? Comment tout ça s'articule? Est-ce qu'il a besoin de potentiellement de toutes les compétences? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui fait une feuille de route? Comment est-ce que tu organises tout ça?
Alors, il y a différentes manières. Pour un sportif amateur ou professionnel, ce sera pas toujours les mêmes besoins, bien que s'ils sont extrêmement similaires. Mais si on prend les besoins d'un sportif amateur, pour commencer, ce qui représente quand même une grande partie de la population, effectivement, il aura plusieurs portes d'entrée. Souvent, il va venir vers nous en disant, j'ai un objectif, j'ai un rêve, j'aimerais monter l'Himalaya, j'aimerais traverser le lac Léman. Ça, c'est la deadline. Voilà ce que je veux faire. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Et puis souvent, ça, c'est moi qui fais le premier interview, ce qu'on appelle le questionnaire 360, où on va aller regarder ses aspirations, ses compétences physiques, sa manière de réfléchir, son aspect mental. On va aller regarder ses blessures, s'il a eu des blessures au niveau physique. Et puis, on va définir un petit peu avec lui une feuille de route. Puis, on va définir des objectifs et les besoins qu'il a. Puis là, en fonction de cela, on va mettre en place plus l'emphase sur l'aspect préparation physique, sur l'aspect préparation mentale, sur l'aspect récupération, sur l'aspect nutrition. Et puis, on va élaborer un petit plan de suivi jusqu'à son objectif sportif. Ça, ce sera pour les sportifs amateurs. Parfois, il y a aussi des gens qui viennent simplement avec une blessure qu'ils ont eue au sport. Puis du coup, ils aimeraient comprendre un petit peu plus. Donc, la porte blessure, donc réhabilitation du sportif kiné, va être la première porte d'entrée. Ou d'autres, ce sera l'aspect mental ou l'aspect nutrition. Pour les sportifs d'élite, ça se passe aussi un peu la même chose. La manière différente, c'est qu'il y a plus d'intervenants. Très souvent, ben, du coup, avec le sportif élite, si on prend le cas d'un athlète olympique qu'on a eu ici l'occasion de faire, ben voilà, on sait qu'on a les Jeux olympiques comme ben, Tokyo 2021. Donc on a un objectif très précis et là en fait on va se retrouver avec l'entraîneur, on va se retrouver un peu avec le manager, on va se retrouver avec l'agenda des compétitions avec lesquelles il faut faire face parce que du coup ben ils sont souvent loin, ils sont souvent à l'étranger et du coup là on va mettre en place des blocs de préparation, des blocs de récupération, des blocs d'entraînement à distance ou de coaching et de choses comme ça pour arriver sur l'événement en étant le plus prêt possible.
Tu parlais du sportif amateur qui voudrait traverser le lac en crawl ou monter l'Himalaya, escalader l'Everest. Tu penses que le sport est une question de génétique ou que n'importe qui peut faire n'importe quoi ? Je parle pas forcément d'être un champion, mais est-ce que tous les rêves sont potentiellement accessibles à quelqu'un de relativement bonne santé ?
Oui, je pense que la plus belle phrase que j'ai jamais entendue, c'est « Laissez-moi... » comment c'était ?« Je rêve l'impossible, merci à ceux qui pensent que cela... » Non, comment ça allait ? J'ai un rêve, merci à ceux qui pensent que celui-ci est impossible de s'abstenir. Je crois que c'était une citation comme ça. Je pense que les rêves, c'est la capacité du mental, la capacité physique, sont des choses qui s'entraînent. Et que fondamentalement, certes, on n'a pas tous la même génétique, ni les mêmes compétences. Moi, je suis née endurante, je vais jamais devenir une sprinteuse ou avoir de la force. Par contre, je suis très flexible et je suis endurante. Ou d'autres personnes seront plus fortes et plus rapides dans leurs fibres musculaires, ce qui serait un aspect génétique. Mais je pense que la réalité, c'est que si on a un rêve, on peut toujours y parvenir. N'importe quel sommet, n'importe quelle montagne peut être gravie en fonction de l'entraînement, de l'énergie et de la volonté qu'on y met. Je pense que rien n'est impossible.
Donc tu penses que tout part de la tête, du mental, c'est...
Non, je pense pas que ça part du mental. Je pense que la résilience mentale, la détermination, on n'a pas tous les mêmes profils, peut-être, ce serait le bon terme. Néanmoins, je pense pas que cela fait tout. Je pense que notre éducation et notre entourage est une des clés de la réussite. Il y a eu une étude qui a été faite sur les champions, qui a été faite par le Comité olympique, une étude scientifique qui a interviewé 10 champions olympiques médaillés d'or. Et qui ont demandé les déterminants de la performance. Quel était, selon eux, dans l'ordre de plus important, les déterminants de la performance. Et de manière très chouette, parce que ça m'a beaucoup plu, la première chose qui est sortie était l'entourage. L'entourage du sportif. Le fait qu'ils ont des gens sur qui ils peuvent compter. Qui croient en eux.
C'est dingue.
Ouais. Donc le « on y croit » est une des choses les plus importantes. Ensuite venait l'aspect... physique, récupération, la capacité de savoir récupérer. Ensuite venait le mental, la capacité de croire dans le sens d'être déterminé à ce qu'on fait. Et après venait l'aspect physique, préparation physique et entraînement. Donc souvent j'aime beaucoup citer cet article parce que je trouve qu'il a un vrai potentiel de réveiller les gens. C'est pas que sur les déterminants de l'entraînement qu'on va réussir. Il y a un nombre de paramètres qui sont extrêmement importants dans l'aspect social. Et on oublie souvent que l'aspect émotionnel et social est une des choses, le support, le contact et le support humain est une des choses qui fait qu'on va réussir. Et je pense que le Covid nous le montre très bien, que le fait d'être séparés les uns des autres rend les gens beaucoup plus dépressifs et beaucoup moins aptes et motivés à bouger et à croire et à sortir un petit peu de leur zone de confort. Donc je pense que l'aspect humain est un des clés de la performance et de la réussite sportive.
Et du coup, si on prend l'enchaînement de ton article, donc il y avait le facteur humain, l'encouragement, l'entourage, votre équipe, du coup, qui elle aussi est force de motivation, certainement.
Oui. Ouais.
Donc la deuxième chose, c'était la récupération. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus pour améliorer sa récupération ? Est-ce que tu as des outils ? Est-ce qu'il y a des
ouais.
techniques ?
Alors il y a plusieurs outils. On parle beaucoup actuellement de cryothérapie. Tout le monde s'est venu hyper trendy et tout le monde veut faire de la cryo parce que...
Bah là, il suffit d'aller se baigner dans le lac.
Ouais, exactement. Parce que sur Instagram, c'est super fun de montrer que t'allais dans une chambre cryo, faire un petit shot Instagram. On a écrit un article là sur notre blog il y a pas longtemps là-dessus. Le froid est effectivement, pour les sports d'endurance, est un facteur de la performance, est un facteur de récupération. Il n'aura pas un impact sur la performance en elle-même, il aura un impact sur l'aspect mental, sommeil, sensation de bien-être. C'est des sensations émotionnelles. Le fait de crever de froid à moins 180 degrés ou moins je ne sais pas combien dans une chambre de cryo, ça va générer des endorphines. Du coup, ça va vous aller avoir une sensation de bien-être et puis physiquement, ça va avoir un impact sur sur votre circulation veineuse et puis le retour et puis l'élimination un petit peu des acides et puis des toxines. Après, pour les sports de force, par exemple, de faire de la cryo, c'est pas bon en termes de récupération. Ça va nuire à la performance.
Parce que ça réduit l'inflammation.
Tu le sais. Produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 euros par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. Il s'appelle la routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testées, affinées et intégrées dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel, sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main et soutenir ce projet en investissant 20 euros dès aujourd'hui, le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien.
Exact. Donc il y aura des paramètres comme ça qu'une chose qui est bonne n'est pas bonne pour tout. Et malheureusement, on a toujours un peu tendance à croire que one size fits all, qu'il y a une chose, mettre du tape comme tous les joueurs de foot va faire que on va jouer et shooter un ballon meilleur. Non, c'est faux. C'est juste du marketing. Après, pour la récupération, je pense que une des choses qu'on oublie énormément dans l'aspect basique de nos besoins en tant qu'être humain, les besoins de l'être humain, c'est dormir. Donc, dormir est un des facteurs clés de la récupération. On sait que le nombre d'heures de sommeil a un impact. Bien entendu, on parle toujours de ces 8 heures. La réalité scientifique est que c'est entre 7 et 9 heures, hein, le nombre d'heures de sommeil qu'on devrait avoir pour bien récupérer. Et la qualité du sommeil a un impact. La qualité du sommeil a un impact sur l'aspect de la récupération liée à l'apprentissage. Donc, on va apprendre mieux si on dort bien. Et la quantité du sommeil va avoir un effet sur l'aspect récupération. C'est-à-dire que logiquement, dans un monde idéal, si on s'entraîne 7 heures, on devrait dormir 7 heures. Ou du moins avoir un temps de récupération qui est équivalent à celui de la préparation. Pour simplement pouvoir progresser. Sans récupération, on ne peut pas progresser. Donc ça, c'est un des facteurs clés. Le deuxième facteur clé de la récupération, c'est l'hydratation. Boire suffisamment, c'est essentiel pour nos tissus, pour notre peau, notre collagène, nos fascias, nos muscles, drainer les acides quand on a développé de l'acide suite à l'activité. On sait qu'une énorme quantité des athlètes, des artistes, des gens de monsieur, madame, tout le monde ne boivent pas assez. Donc l'hydratation est un facteur essentiel à la récupération et bien entendu à l'alimentation. Et je pense que en termes de, si on commence juste par nos besoins, dormir, manger, boire, vous avez déjà 80% de la récupération. Ensuite, les petits plus comme aller se baigner dans le lac, quand on a fait un sport d'endurance ou de la cryo, oui, mais ce facteur-là, c'est 2% de la performance. Donc, si déjà on arrive à faire le 98% bien, ces 2%, ce sera peut-être le fine-tuning effectivement pour des athlètes olympiques où on va essayer d'aller optimiser l'ensemble de tout ce qu'on peut gagner pour monsieur, madame, tout le monde, de rester sur ses besoins basiques de dormir, manger, boire est un des facteurs suffisants pour progresser dans sa performance.
C'est marrant parce qu'on est toujours en train de chercher 50 outils, etc. Et on en oublie assez rapidement les fondamentaux.
La base,
L'hydratation, bon, le sommeil, on en parle de plus en plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a pris conscience et on essaie de mieux dormir. Et d'ailleurs, on remarque un meilleur équilibre entre vie pro, vie perso pour favoriser ces temps de repos, de relaxation, etc. Mais par exemple, un truc comme l'hydratation, c'est vrai que c'est tellement basique, on pense que le corps humain est capable de savoir tout seul quand il a besoin de boire, et donc on se contente de s'écouter, alors que parfois on est absorbé par une tâche et donc on oublie facilement de boire.
Et puis je pense que notre mental prend beaucoup le dessus, hein. La récupération mentale, bien entendu, va aussi avec un aspect pleine conscience, méditation, sophrologie, relaxation. On entend aussi beaucoup parler, hein. Ça a un énorme impact sur la concentration, ça a un énorme impact sur les performances cognitives. Mais en fait, je pense qu'on est devenu un petit peu trop cognitif, justement. À l'époque, on parlait que de la terre, de la préparation physique. C'était les paysans, la méthode russe d'entraînement bulgare, où c'était que de la force, où tout était basé sur l'homme puissant, fort physiquement. Et puis, on a vu un petit peu gentiment un shift où actuellement, on parle que de psychologie du sport, que de mental, parce qu'on est devenu dans une société, pour moi, qui est devenue très cognitive.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, on shift et on oublie un peu de savoir qu'on a un corps. Du coup, on n'est plus que des têtes qui se promènent sur des pieds. Puis finalement, le corps, on ne sait plus le sentir. On n'est plus capable d'identifier nos émotions, d'avoir du plaisir. La notion du plaisir dans l'entraînement est un des facteurs clés de la performance sur l'aspect... plasticité, la capacité de notre cerveau, de nos muscles, de nos tissus à se régénérer, et du coup de faire le lien, de se dire ben c'est pas que le syndrome de la balançoire, c'est soit l'un ou soit l'autre, on passe d'une extrême à une autre, donc on passe du corps au mental, mais de se dire qu'entre deux, bah il y a la notion de savoir s'écouter, savoir sentir, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis content, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis en forme. Et on sait que, au tout cas du moins ce qu'on voit, c'est que les blessures, la majorité des gens, quand vous leur demandez « Ah, comment c'était pour vous ?»« Ah, je la sentais pas. » Bah, du coup, je suis quand même allée parce que je me suis dit « Eh bam, c'est le jour où ils sont blessés. » Donc en fait, on n'arrive plus à prendre conscience de notre corps. Et je pense que ce pourquoi ça devient essentiel de revenir à l'essentiel, ce qu'on nous rabâche là tout le temps ces jours, mais de savoir juste se fier sur nos besoins fondamentaux. Et avec la... Si on remplit ses besoins fondamentaux, on a déjà une très très grande partie de la performance.
Et la méditation peut effectivement être une bonne façon d'y parvenir, de faire un petit peu... De calmer un peu l'esprit, d'éloigner un petit peu tous les soucis du travail, etc. Moi, je suis entrepreneur, je le disais avant, et quand je rentre le soir du boulot, j'ai encore la tête plein de problèmes à gérer le lendemain, etc. Et du coup, je perds ce temps où je suis censé me connecter à moi-même et même mais également à mon entourage. Et je trouve que la méditation me sert un peu de sas de décompression entre ma vie pro, ma vie perso, et m'aide à me reconnecter à moi, à mes sensations, à ce que je ressens, et puis aux autres aussi autour de moi.
Alors ça, c'est sûr. Je pense que ça, on le voit hein, beaucoup dans la littérature, dans les médias. Il y a plein d'applications, Mindspace, tous ces trucs-là de... consciousness, d'avoir conscience de ce qu'on fait, la pleine conscience, la méditation. Et je pense que oui, effectivement, du fait qu'on est dans un, selon moi, hein, de nouveau, ça n'engage que moi, mais du fait qu'on est dans ce monde de performance mentale, on doit être productif, on doit toujours plus haut, plus loin, plus fort. C'est pas juste la devise des Jeux Olympiques, hein, c'est devenu notre quotidien de productivité par rapport au monde où on est. Et je pense que d'être toujours dans cette vision de la du plus, ça nous déconnecte un petit peu et notre mental, il s'arrête plus. Et du coup, je pense que de revenir à la respiration, la méditation, ce qu'elle fait, hein, elle nous focalise quoi sur les battements de notre cœur ou sur notre respiration. Qu'est-ce que cela fait de se focaliser sur un ressenti, quelque chose de physique, hein, du coup, on se reconnecte à notre physique, à notre physicalité, à notre corps. Et ça a un impact sur notre système nerveux. Alors en fait, notre système nerveux, il a trois manières de fonctionner. Il fonctionne la manière autonome, qui est notre cœur qui fonctionne pour battre et nos poumons pour respirer, qu'on peut pas tellement contrôler. Et ensuite, on a deux autres modes. On a un mode de survie, qui est le mode de flight, freeze or fight, qui est le mode de je me bats, je me casse en courant ou je gèle, qu'on voit chez les animaux, hein. Il y a des animaux, soit ils se battent, soit ils se cassent, ou soit ils font le mort. Ça, c'est le système de survie, qui est en lien avec les systèmes, ce qu'on appelle sympathiques. Et après, on a l'autre mode de survie, qui est le système de la digestion, de la relaxation et de la reproduction. Où là, de nouveau, le sang va venir beaucoup plus à l'intérieur. Et en fait, ces systèmes de méditation, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font shifter d'un mode de stress et de survie à un mode de relaxation, de digestion. C'est pour ça qu'on a des gargouilles souvent quand on se pose, quand on va se faire masser, quand on se relaxe, on a le ventre qui gargouille parce que notre système digestif, il se remet en route. Et du coup, ça nous pose et ça nous fait revenir aux sensations du corps par la respiration ou de poser, ce qui fait que ça va poser notre mental.
Et du coup, sans faire une séance de méditation à part entière, même pendant la journée, on pourrait peut-être essayer d'allonger un peu l'expiration pour être plus sur le parasympathique, etc. Avoir
exactement.
Ce petit réflexe pendant 2 minutes de temps en temps pendant la journée.
C'est ça. Et c'est ce qu'on propose, hein, parce que souvent, de nouveau, personnellement, moi aussi, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise d'un centre pluridisciplinaire, on est tout le temps dans l'action. Il faut répondre, si, ça, etc., être disponible avec nos patients, en plus, enfin, voilà,
comme. En plus, faire des podcasts.
Faire plein de choses. Et les gens, ils nous disent, ouais, mais je vais faire quand mes exercices? Bah, en fait, tu vas intégrer tes exercices à ton quotidien. Parce que l'idée, c'est pas de rajouter encore plus, alors qu'on est déjà surchargé, c'est d'intégrer les bonnes pratiques au quotidien. Et, typiquement, comme exemple, ça, c'est mon collègue, Axel, qui était un nutritionniste chez nous, qui donnait toujours cet exemple-là. Il disait, bon, en fait, vous mangez, et puis ensuite, vous allez faire 3 fois le tour de la maison. Parce que comme ça, ça va favoriser votre digestion. Et du coup, vous aurez fait vos 5 minutes de marche. Et du coup, si vous faites ça, puis encore 5 minutes, bah, on arrive aux 30 minutes recommandées par l'OMS, par exemple. Et, la respiration, pour moi, c'est la même chose. Moi, je dis aux gens qui travaillent, j'étais là-bas, voilà, 1 minute, mets un setting sur ton téléphone, que 1 minute toutes les heures, tu mets une petite alarme et puis tu bouges tes épaules. Tu mets tes mains sur ton ventre. Tu fais 5 respirations, tu fermes les yeux, tu te mets dans ta bulle et ça suffit. Finalement, le cerveau, il a pas besoin tant que ça pour déconnecter. C'est juste qu'il faut y penser.
Mais moi, j'utilise une petite application qui s'appelle Pomodoro, qui me fait un timer, en fait, et toutes les 25 minutes, il sonne. Et ça me permet de me rappeler qu'il faut que je bouge, que je me lève, que j'aille faire quelques pas, j'ouvre la fenêtre, je respire un peu d'air frais, je vais marcher un petit peu. J'ai un élastique, je fais quelques étirements avec mon élastique, ou alors je fais un petit peu de respiration, de cohérence cardiaque. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait du bien. Et sinon, on n'y pense pas. Dès que j'oublie de le lancer le matin, parfois j'oublie, clairement, tout de suite, je le fais plus.
C'est ça. Et c'est pour ça que on veut tout, enfin, je trouve que c'est, on attend toujours cette vision magique qu'un jour quelque chose va nous arriver, puis qu'il y a une solution. Mais en fait, de nouveau, c'est du bon sens, c'est beaucoup de bon sens et d'être un peu pragmatique, en fait. Juste donner des possibilités toutes les heures de faire un petit coup de respiration, de bouger, et du coup, ben, toutes les heures dans la journée, ça, même si c'est 1 ou 2 minutes, ben, ça en fait quelques-unes pendant le...
Ouais, c'est sûr.
Et ça suffit.
Et est-ce que t'as des idées pour être plus conscient de son corps pendant l'activité physique? Parce que l'activité physique, elle va beaucoup plus taper dans le sympathique, on va être beaucoup plus speed, beaucoup plus dedans, etc. Et donc, on tombe facilement dans le, on oublie facilement d'écouter son corps pour être seulement dans la performance. Comment est-ce que tu te reconnectes avec ton corps à ce moment-là?
C'est un grand topic actuellement dans le monde du sport, parce qu'effectivement, on voit que peut-être on a entendu parler sur l'aspect psychologie de la performance, sur l'orientation performance ou résultat performance, ou de growth mindset sur l'orientation du chemin. Et on sait que l'orientation performance résultat, c'est un des déterminants de la surcharge cognitive et de la dépression, voilà. Et donc, effectivement, apprécier ce qu'on fait pour ce qu'on fait, pour l'apprentissage qu'on reçoit, plus que pour la performance ou le résultat, est un des facteurs qui va améliorer le plaisir d'une part, mais aussi les résultats par la suite, et qui va diminuer le stress mental. Je sais pas si j'ai une solution pour comment faire. Je pense que parfois, simplement, essayer de se focaliser sur ce qu'on ressent. Ça, c'est ce que je dis beaucoup à mes patients qu'on voit. Ils me disent « Mais je fais mes exercices !» Ok, comment tu les fais? Ah bah alors, je mets ma télé et puis je fais mes exercices devant la télé. Mais du coup, si tu fais tes exercices devant la télé, ta focalise, elle sera pas sur toi. Elle sera sur quelque chose d'extérieur à toi. Donc des fois, donner des petits outils qui sont... pas forcément basé sur tes sensations internes, parce qu'on sait que ça, c'est assez difficile si on n'est pas un expert de savoir exactement comment notre corps se tient, mais d'utiliser des petits jeux. Par exemple, je sais pas, si on fait de l'équilibre, de faire passer une bille, comme ça, directement, on a un feedback. Et le fait d'avoir un feedback, ça va nous permettre d'être concentré sur ce qu'on fait, par exemple, d'avoir un focus qui sera extérieur, mais qui va nous donner une référence sur ce qu'on fait, un retour sur ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est un des outils qui est intéressant à utiliser, en tout cas sur l'aspect réhabilitation du sportif dans les exercices, et sur l'aspect sport amateur, je pense Oui, d'essayer de se focaliser sur sa respiration ou de ressentir son rythme cardiaque ou des choses comme ça va peut-être permettre une meilleure connexion ou je sais pas, l'appui du sol, de se donner un, si je parle de course à pied, se dire bon, ok, moi l'objectif de ma course aujourd'hui ça va être de focaliser sur le déroulé de mon pied. Et du coup comme ça on est attentif à une sensation et ça nous permet pour moi, je pense, d'être plus connecté à ce qu'on fait. Que d'être en train d'écouter de la musique, répondre à ses messages, faire un selfie de son temps de parcours et de pouvoir le poster sur Facebook.
D'ailleurs. Alors, et donc, on a pas mal parlé de l'entourage, de la force du groupe. On a parlé de la récupération, des sensations. Maintenant, si on aborde la question de la préparation physique, d'abord, je me pose une question. Est-ce que tu penses que, et ça rejoint un peu ce que je te demandais tout à l'heure par rapport à la génétique. Par exemple, je te donne mon exemple. J'ai les ischios raides. Je fais pas mal d'étirements, etc. Et pour autant, ils restent raides. Si je voulais faire de la gymnastique ou des figures de street workout, ça m'handicaperait certainement. Est-ce que tu penses qu'avec de la prépa physique...
Stop le stretching, c'est la première chose que je te dirais.
Ouais, tu penses que j'y arriverais? Enfin, tu penses que j'arriverai à les avoir, à les rendre souples?
C'est-à-dire que si t'es un joueur de foot, est-ce que t'arriverais à faire un grand écart? C'est ça?
Oui, par exemple,
ouais. Je suis pas certaine. Pour deux raisons, ça dépend de ton background. C'est-à-dire que ça dépend le nombre d'entraînements que t'as fait, quel est ton historique sportif. Comme je le disais tout à l'heure, si t'as des fibres rapides, tu vas pas te transformer en... si t'as des fibres longues, tu vas pas transformer tes fibres longues en fibres rapides pour devenir sprinter. Par contre, en relation avec la flexibilité de son corps, la raideur de son corps, la raideur, on pense toujours qu'elle est liée à nos muscles. Donc, on veut faire passer sa vie à faire du stretching. Stretching passif, ça ne sert pas vraiment à grand-chose au-delà d'avoir un meilleur potentiel pour te blesser. Maintenant, d'aller travailler ta mobilité, ça oui, tu vas l'améliorer avec des exercices qui seront adaptés. De générer du stretching dynamique ou balistique, d'aller vraiment chercher des contractés, des relâchés, d'avoir du mouvement pour aller entraîner tes fascias pour qu'ils coulissent mieux, d'aller mobiliser ton système nerveux, ce qu'on appelle du neuroméninger, et d'aller mobiliser ta musculature, bah là, tu vas avoir un impact sur ta raideur, si tu veux. Maintenant, si t'as des amplitudes articulaires, donc ton articulation est très serrée parce que la forme de tes os a une certaine possibilité de mobilité, à moins que tu te fasses une chirurgie des os, tu vas pas pouvoir changer. Donc ça dépend beaucoup de ta constitution de base structurelle, de ton ossature, puis après ça dépend aussi de ton collagène, de l'élasticité de tes tissus, et ça dépendra aussi de tes entraînements. À savoir que si tu t'entraînes pendant une année, t'arriveras certainement à faire gagner de la souplesse. Maintenant, savoir si t'arriveras à faire un grand écart, je sais pas. Mais c'est plastique. Le corps est plastique. C'est pour ça qu'il répond à l'entraînement. Seulement, il faut savoir donner les bonnes modalités, les bons paramètres.
Et tu parlais tout à l'heure des fibres rapides, des fibres lentes. C'est quoi pour toi, du coup, un athlète complet? Est-ce que tu penses qu'on peut, je vais le dire autrement, est-ce que tu penses qu'on peut concilier à la fois force et endurance?
Ah oui, parce que la force, ça peut aller, y a plusieurs, quand t'es endurant, t'es fort. Enfin, dans le sens que la force pure, la définition de la force, elle a plusieurs paramètres. Donc, si tu parles de force explosive, de force, de pure force, mode hypertrophie, un RM bodybuilder qui va soulever 300 kilos sur un squat, cette personne-là, si elle a des fibres rapides puis elle va développer beaucoup de masse, elle pourra devenir endurante, elle pourra shifter et faire de l'endurance. Maintenant, une personne qui a que des fibres lentes, elle va augmenter sa force, c'est sûr, elle peut, par l'exercice, l'hypertrophie, elle va augmenter. Est-ce qu'elle pourra devenir aussi rapide qu'un sprinter? La réponse, elle est non, parce qu'on va pas changer notre génétique. Par contre, oui, tu peux allier force et endurance, ouais.
Et du coup, c'est quoi pour toi un athlète complet? Est-ce qu'il y a une définition d'athlète complet?
Pas pour moi. Je pense que ça dépend. Enfin, chaque pratique sportive ou artistique demande des compétences et des qualités athlétiques qui sont différentes. Et c'est en fonction de ces compétences athlétiques que tu vas définir si t'es adapté à ton sport ou pas.
Je pose la question parce que si tu regardes le CrossFit par exemple qui est devenu de plus en plus à la mode, une des philosophies sous-jacentes, si je me trompe pas, c'était de dire on va essayer de pratiquer un petit peu tous les sports. En dehors, il y a les WOD et puis en dehors des WOD et derrière l'idée c'est d'être un athlète complet capable de tout faire. Est-ce que ce mythe-là il tient du réel?
Moi de mon point de vue, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est du bullshit, c'est du marketing. Je pense que si tu veux
performer.
Tu dois être spécifique. Tu peux être bon dans plein de choses. Moi, j'ai jamais été très bonne en performance. J'ai fait de la course à pied, j'ai fait du triathlon, je fais de la grimpe, je fais de la montagne. Bah, je suis médiocre partout.
Mais tu t'éclates partout.
Mais je m'éclate partout.
C'est le principal.
Voilà, je m'en sors. Maintenant, si je voulais performer, que ce soit dans la, enfin, si je fais de la grimpe ou de la rando ou du freeride, c'est pas les mêmes muscles, c'est pas les mêmes capacités, c'est pas la même endurance, c'est pas la même technique. Et puis, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'aspect physique ou mental. Il y a la technicité. Le geste technique tient un rôle essentiel à la performance. Donc, je trouve prétentieux de penser qu'en faisant du CrossFit, on va devenir super partout. Sans offense au CrossFit, mais je pense que c'est du marketing.
Très bien. Tu parlais tout à l'heure, avant le podcast, en réalité, de la santé durable. Qu'est-ce que c'est pour toi?
Je pense que notre génération, elle a une vision qui est peut-être... on n'a pas le choix, on doit s'orienter vers quelque chose de plus durable, que ce soit dans l'écologie, dans l'économie, dans la politique, dans de nombreux sujets. Je pense que la santé durable, ma vision de la santé durable, c'est de se dire que on a tous un corps, c'est notre maison. Si on veut être bien chez soi, il faut déjà être bien dans son corps, et puis que c'est essentiel de le maintenir en forme et en bonne santé. Et je pense qu'on est tous responsables de tenir son corps en bonne santé. Et je pense que le mythe de la baguette magique du thérapeute, gourou, slash je sais tout faire, est aussi déresponsabiliser les gens. Et c'est pour ça qu'ici, à En Mouvement, le centre, il est vraiment dédié à l'activité sportive et aux performances artistiques dans une vision de durabilité, c'est-à-dire que on encourage les gens qui viennent chez nous, que ce soit pour une blessure, pour une préparation spécifique, ou pour l'optimisation de leur santé ou de leur performance, à être responsable. Donc responsable dans le sens qu'on passe un accord avec eux, que nous, on part du principe que l'exercice est notre meilleur thérapeute, se remet notre le corps a besoin de mouvement pour exister, et que du coup, si la personne n'est pas prête à s'impliquer durablement dans son traitement, l'optimisation de sa santé, alors nous, on les suit pas.
Donc la base d'une bonne santé, c'est le mouvement?
Pour moi, la base d'une bonne santé, c'est le mouvement, oui.
Et en quelle proportion?
La base de recommandation de l'OMS, c'est 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Tout simplement marcher. Ça, c'est juste la base pour être en bonne santé. À savoir que la majorité des pays et des gens ne le font pas. Donc ça, pour moi, c'est la base. Après, d'être sportif, concrètement sportif, ça signifierait de faire plus que 30 minutes par jour.
Après, moi, si tu veux, j'ai une bonne solution à conseiller à tes patients lorsqu'ils n'arrivent pas à marcher 30 minutes par jour. Il suffit de s'acheter un chien.
Oui, c'est vrai.
Et de pas avoir de jardin.
Et d'aller dehors. Mais je pense que la durabilité, c'est le mouvement dans beaucoup de choses. Et c'est la conscience et l'autonomie. Plus que le mouvement, c'est aussi l'autonomie. C'est d'arrêter de penser que si tu vas voir un ostéo, un kiné ou je sais pas quoi, il va régler tes problèmes. Tes problèmes, c'est il y a que toi qui peut les régler, dans le sens que oui, il y aura besoin de l'expertise d'un professionnel pour donner des conseils, mais pour la réussite de ta performance, de ta santé, de ta réhabilitation ou de ton exploit sportif, ça reste ton engagement. Si t'es pas engagé et assidu et déterminé et consistant, dans le sens que tu vas être récurrent dans tes activités, tu vas pas progresser. C'est pas en faisant une fois du CrossFit que tu vas faire un soulevé de terre à 120 kilos. C'est pas en faisant une fois de la méditation que tu vas réussir. C'est la récurrence et des stimulus que tu vas mettre en place, c'est ce qui est simplement l'apprentissage. Mais je pense que la santé durable, le concept de santé durable, c'est la capacité d'éduquer les gens à devenir autonomes en leur donnant des clés pour réussir et de les encourager à un mode de vie engagé et responsable.
Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement, pour avoir un corps en bonne santé, un esprit en bonne santé, être...
Alors moi, mon meilleur thérapeute, c'est la nature. Donc, je passe énormément de temps Alors, je viens de la montagne, je suis née à la montagne, donc peut-être que ça a un impact, mais moi, je ne dors pas si j'ai pas marché, j'ai pas pris l'air au moins 30 minutes, ça c'est une évidence. Donc moi, mes sports, mes activités, elles sont la marche en montagne, énormément de rando. Je fais beaucoup de ski de fond, de ski, de snowboard et de grimpe, d'escalade en extérieur. C'est vraiment, j'aime ce contact avec la roche. Je pense que pour moi, la grimpe, ça a été le meilleur apprentissage pour être un entrepreneur. C'est que finalement, tu as tout le temps un mur devant toi et qu'il n'y a pas une seule solution pour réussir ta voie. C'est que finalement, c'est ça qui est génial pour moi dans l'escalade, c'est que tu as un objectif, arriver au bout de ta falaise, mais il n'y a pas une solution. C'est-à-dire, c'est à toi de trouver ton chemin en fonction de tes capacités physiques et mentales. Donc ça, c'est pour moi mes solutions au bien-être, et je navigue beaucoup parce que j'ai le lac, j'ai beaucoup besoin d'eau, donc je vais nager 2 fois par semaine et je navigue. Et la navigation est une très bonne thérapie pour mon mental. Voilà, c'est ce qui fait que je reste en bonne santé. Et je bois beaucoup d'eau et je mange bien.
Ouais, et du coup, tu fais pas de méditation pour toi, le fait d'être dans la nature ou de traverser le lac à la voile?
C'est ma méditation. Alors, je fais la méditation régulièrement. Je pars en retraite une fois par année de méditation. Je fais du yoga aussi tous les jours. Le matin, c'est mon rituel. Je fais mon yoga pour me mettre en route. Mais ma méditation, moi, elle est dans le mouvement. J'aime justement cette capacité de me connecter à moi. Donc, c'est-à-dire, quand je vais courir, je mets pas de musique. Quand je fais ma rando en pot de phoque non plus, enfin, j'aime être connectée au rythme. J'aime beaucoup cette notion de rythme que ce soit dans le ski de fond, la pot de phoque, la randonnée, l'escalade. J'aime me connecter au bruit extérieur et à l'aspect fluidité du mouvement. Et ça, c'est ce qui me permet de déconnecter. Alors voilà, ça, c'est mon chemin à moi. Il y en a d'autres qui ont plus besoin de rigueur en méditation en restant sur place et se focalisant sur leur respiration. Moi, ma méditation vient du mouvement.
Génial. Et est-ce que tu penses que le mouvement suffit à nous prémunir contre le mal du siècle qui est le mal de dos?
Oui.
Oui, c'est tout. Ouais, voilà. C'est tout. Donc en fait, vous, ostéo, kiné, pardon, vous, enfin, tous les ostéos, etc., au final, ça sert à rien.
Non, ça sert pas à rien, parce que je pense que le corps, il a besoin d'avoir des petits coups de pouce. Par contre, ça servira à rien d'aller chez l'ostéo si derrière tu vas pas bouger. Nous, on a ici 2 ostéos et ils seront tout à fait d'accord, ils me rejoindront là-dessus. C'est que les ostéopathes, ce qu'ils font d'un point de vue structurel, hein, je parle pas de l'aspect énergétique, biodynamique et toutes les choses qui peuvent exister parallèlement ou avec l'ostéopathie sous ses différentes formes, mais sur l'aspect purement structurel, si on va mobiliser une articulation, manipuler une articulation, débloquer, ce déblocage, il va être maintenu par le mouvement. Donc je pense pas que ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien d'aller toutes les semaines chez le kiné ou chez l'ostéo
pour faire de la merde à côté.
Voilà. Pour rester assis 25 heures par jour.
Non, mais je te rassure, quoi que laisser sous-entendre ma question, j'aime beaucoup les ostéos. D'ailleurs, dans un épisode avant toi, on parle avec un ostéo qui habite à côté de chez moi et que j'apprécie beaucoup. Est-ce que t'aurais des livres ou des films qui t'ont marqué à me conseiller, qui pourraient me permettre de faire évoluer ma pensée, ou en tout cas qui toi t'ont aidé à avancer dans la...
J'adore Le Grand Bleu, je trouve qu'il est magique, ce film. Il est très vieux maintenant, mais on voit aussi de nombreux aspects de concentration et de capacité à descendre ses pulses cardiaques en étant très calme avec son mental. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. J'aime bien les films un peu de l'outdoor. Là, il y a eu toute une série où ils montrent les grimpeurs, le vertical wall et tout ça
sur Netflix, je les ai vus.
Ouais, qui sont assez super. Incroyables. Et l'autre Netflix qui ont fait une série, je suis très mauvaise pour les titres. C'est un vieux monsieur qui a passé sa vie à faire des reportages sur les animaux.
Ah oui, Our Planet.
Ah, peut-être c'est ça.
C'est de David
Ackerman ou un truc comme ça.
Un nom assez alambiqué. Mais...
Ouais. Et lui, justement, j'aime beaucoup la manière dont il aborde la durabilité de notre planète. Notamment, il touche un petit peu à l'aspect du végétarianisme et de l'aspect sauvage qui est pour moi une très belle série Netflix à regarder.
On dévie un peu du sujet, mais je suis aussi assez intéressé par tout ce qui est justement consommation durable et par notre impact sur notre environnement et notre planète. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, sans rentrer dans les débats philosophiques, pour faire ta part à ton niveau?
Ça rejoint aussi le fait d'être en mouvement est au centre-ville de Lausanne. L'aspect durabilité. Pourquoi j'ai choisi le centre-ville de Lausanne? Parce que je trouvais ça très chouette que les gens viennent en transport public et de pas me mettre dans une zone commerciale, industrielle, pour favoriser que les gens prennent leur voiture pour venir se faire soigner. Ça, c'est une des choses de mon quotidien en mouvement. De mon quotidien personnel, c'est que je viens en vélo au travail. Parfois en trottinette électrique, quand je me suis plantée d'heure parce que mon réveil n'a pas sonné ou quelque chose. Mais principalement en vélo, j'ai pas eu de voiture jusqu'à récemment. Là, on a reçu une voiture, mais je l'utilise quasiment pas. Donc, j'ai tout fait en train depuis 15 ans. Je recycle à peu près tout chez moi. Comme tu peux le voir ici au centre en mouvement, c'est que de la récup. Il n'y a rien qui est neuf, donc tout est assez vintage, parce que je pense qu'on peut redonner un petit peu de vie à toutes nos vieilleries sans devoir jeter pour consommer IKEA et changer tous les ans.
Mais ça a beaucoup de charme par ailleurs, et d'ailleurs on mettra quelques photos dans l'article lié à l'épisode pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.
Ça, c'est mes petites actions au sein du centre. Je pense que voilà, la récupération, au-delà de juste la récupération physique et mentale, la récupération globale, durable, est un réel état d'être. Je suis choquée quand je vois tout ce que les gens jettent. Et je pense qu'on pourrait réfléchir, c'est des modèles écologiques durables aussi avec le recycling, hein, ce qu'on fait beaucoup. Donc je recycle tout, j'essaie de réutiliser, de faire des échanges. Je mange pas beaucoup de viande, ça fait un petit peu partie de ma diète. Mon objectif, c'est de couper complètement la viande d'ici fin 2021. Mais voilà, c'est un petit peu les choses que je fais pour prendre soin de ma planète et de mon corps et de ce que je peux faire à mon échelle pour avoir un impact local, mais au moins, j'espère, un petit peu plus global par la suite.
Non, c'est super. Je pense que si chacun prend déjà conscience du rôle qu'il a joué dans son individualité, ce serait déjà un beau pas vers là-haut.
Je pense aussi.
Pour terminer, donc le centre en mouvement, il se trouve à Lausanne. On peut y venir, qu'on soit un athlète de haut niveau, qu'on veuille préparer les Jeux Olympiques, qu'on ait envie de monter l'Everest, ou bien qu'on soit un athlète du dimanche qui cherche à se réathlétiser. Je crois savoir que tu fais aussi des workshops en ligne. Est-ce que tu veux en parler? Deux minutes pour dire.
Alors, toute personne qui a une vision active est la bienvenue au centre en mouvement. Donc, on est spécialisé dans le domaine sportif et artistique parce qu'on s'occupe du ballet Béjart, parce qu'on a travaillé avec des athlètes élites. On a fait, par exemple, on a accompagné Stéphanie Hernandez en BMX. Elle a fait la médaille de bronze à Rio. Mathilde Gremaud, elle a fait la médaille à Pyeongchang en slopestyle. À la suite d'une lésion, on a travaillé avec Maxime Chablot pour le kitesurf. Donc voilà, on a un nombreux panel de sportifs élites qu'on a suivis. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de donner l'expertise du suivi d'élite aux sportifs amateurs. Donc ça reste que le centre, il est essentiellement ouvert pour les amateurs, pour leur donner la capacité d'avoir des soins qui sont optimisés. Et effectivement, l'autre chose sur laquelle nous mettons un grand... focus, c'est l'éducation. Et mon objectif, c'est de vulgariser la médecine, parce que je trouve que sur le modèle biomédical que majoritairement les gens vivent, c'est assez insupportable que quand tu vas chez le médecin, chez le kiné, chez l'ostéo, t'as l'impression que tu ressors, t'as une épée de Damoclès parce que tout d'un coup, t'as une lésion de la coiffe des rotateurs ou une lésion puis que tu comprends même pas ce que ça veut dire. Donc on a créé ces workshops qui s'appellent l'anatomie en mouvement, qui en fait décortiquent les muscles du corps, ce qu'on appelle du caisson abdominal ou de l'abdomen, donc tous les muscles profonds, pour essayer d'enseigner aux gens comment les entraîner, comment les faire récupérer. Et ensuite, on aborde des sujets comme débuter la course à pied, comment pratiquer l'automassage. On essaie vraiment de donner des clés aux gens pour qu'ils deviennent autonomes. Et ça, c'est vraiment mon grand point. On enseigne dans des clubs, on enseigne... dans des fitness, aux coachs, aux gens. Enfin, c'est notre objectif, c'est vraiment de réussir à vulgariser le savoir médical pour que tout un chacun puisse avoir les clés pour avoir justement cette responsabilité et cette autonomie et qu'il n'y ait pas tout le temps besoin d'aller consulter un spécialiste et de payer une blinde pour être en bonne santé. Donc voilà, tous ces cours, ils sont accessibles financièrement parce que c'était aussi l'objectif de faire des prix qui soient accessibles pour tous et ils durent entre 1h30 et 2h30, ça dépend des thématiques.
Hyper intéressant. Je t'avoue que je les ai pas encore regardés, mais tu viens de me donner envie de le faire.
Bah tant mieux, j'en suis ravie, c'est le but.
Merci beaucoup Véronique.
Avec plaisir, merci David.
Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.